Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Il y a de la grande visite au Québec. Le premier ministre français Gabriel Attal, qui a d'ailleurs tenu un discours devant les élus à l'Assemblée nationale. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
On a beaucoup parlé, entre autres, puis ça avait fait réagir, de laïcité. Il a été chaudement applaudi par plusieurs, dont bien sûr François Legault. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours?
J'ai pensé que c'était un discours qui était très... globalement très généreux pour le gouvernement Legault, parce que c'est comme s'il est venu par ses plaidoyers très forts autour de l'importance de la défense du français, l'importance de la valeur de la laïcité. Il est venu légitimer l'approche du gouvernement Legault sur ces fronts-là et rappeler à l'électorat québécois que ce sont des avancées importantes dans la case des bilans du gouvernement. On voit que c'est un gouvernement qui a de la misère en ce moment à passer à la prochaine étape de son autonomisme et de son nationalisme, parce qu'on est dans des rapports beaucoup plus conflictuels et difficiles à résoudre avec le gouvernement Trudeau. Et c'est comme si ça mine dans l'esprit de l'électorat le fait que M. Legault a tenu des gains et fait des avancées importantes pour le Québec. Et c'est comme si par son discours, finalement, Gabriel Attal est venu rappeler aux Québécois que finalement, c'est pas juste de la petite politique identitaire, là, cette idée de continuer à lutter, à se battre, à légiférer, à avancer, à mettre en place des mesures fortes pour défendre le français, mais que c'est existentiel, que c'est important, que c'est légitime. Et je pense que d'un point de vue politique et symbolique, c'est une partie du discours qui va rayonner, si on veut, au-delà de la limite temporelle de cette visite-là.
Ouais. Emmanuel, ce sera intéressant de voir lorsqu'il va faire aussi un point de presse avec les journalistes. C'est sûr qu'il sera questionné un petit peu sur la fameuse politique du nini. Il l'a abordé un petit peu à Ottawa, là. Tu sais, non-indifférence, non-ingérence, non-ingérence, non-indifférence. En fait, j'ai inversé. On entendait dans les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon qui faisait déjà référence à la souveraineté. Bon, M. Attal n'a pas fait un De Gaulle de lui-même, là. Mais...
Oui, mais le clin d'œil était intéressant,
hein, oui, par ailleurs. Oui, c'est vrai.
Lorsqu'il dit, tu sais, pour reprendre la formule de De Gaulle, etc., puis là, il dit « Vive le Québec, vive la France ».
Alors, se disait, il y avait un clin d'œil qui était...
Ben, on s'attendait à ce qu'il n'allait pas commettre un incident diplomatique quand il n'est même pas président, puis il est à sa première visite hors de l'Europe comme jeune premier ministre, objectivement. Mais on sent que... Puis moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'espèce de dichotomie dans les thèmes abordés par Gabriel Attal dans cette visite qui était bicéphale. Il y avait une portion qui était du côté d'Ottawa où on a vraiment mis l'accent sur les échanges commerciaux, la lutte contre les changements climatiques, contre les leviers qui relèvent du gouvernement fédéral, à tel point que quand la question a été posée à Ottawa au premier ministre Attal sur la non-ingérence, la non-indifférence, c'est comme si le premier ministre français avait été indisposé. Il dit, écoutez, le Québec, là, on gérera ça quand je serai au Québec, là. Tu sais, je vais pas venir cracher dans la soupe quand je suis à côté du premier ministre du Canada, là. Alors, il l'a dit de manière très polie. Est-ce qu'il va vouloir revenir là-dessus de manière plus large ici au Québec, probablement parce qu'on se doute bien que les journalistes de la colline parlementaire vont essayer d'en obtenir plus
ça
et d'en avoir
genre,
plus.
En mais
objectivement, je vais dire, il y a quelque chose d'un peu colonial là-dedans. Là. Tu sais, on n'est pas à la veille d'un référendum, donc la réponse du premier ministre n'a pas d'impact objectivement à l'heure où on se parle sur la nature du débat autour de la souveraineté. Là. Le plus tôt qu'il y aura un référendum, là, c'est quoi? C'est dans 4 ans. Là. Alors, on se calme, tout le monde. C'est comme si le Québec, on est en 2024, n'a pas besoin de la France pour légitimer ses aspirations nationales. Moi, je trouve que dans la nature du débat politique actuel et de l'importance des enjeux auxquels le Québec est confronté vraiment, mais comme nation, au-delà de la question souverainiste, il y a des enjeux autrement plus importants. Moi, je pense entre autres à tout l'enjeu du numérique, toute la réflexion qui a lieu en ce moment sur comment on fait pour assurer notre souveraineté culturelle dans un espace qui est sans foi ni loi. On n'est pas dans un contexte sur ces plateformes-là où on peut légiférer du contenu canadien, du contenu québécois, etc. Comment on fait? Ça, c'est un vrai casse-tête qui a une incidence réelle, immense et fondamentale sur la capacité du français de continuer de prospérer et de grandir auprès des futures générations. Et ça, c'est un élément sur lequel, vraiment, le Québec a besoin de la France comme alliée et sur le front duquel il y a vraiment une synergie importante qui peut et qui doit s'opérer. C'est le contexte d'ailleurs sur lequel ils vont signer un protocole commun sur le français, etc. Mais je trouve que vraiment à court terme là, c'est un foyer et un sujet autrement plus porteur et plus immédiat en termes de débat.
Ouais, et puis parmi les sujets chauds, il parlait aussi de la transition énergétique en disant c'est le défi de ma génération. Il y a plusieurs personnes, Emmanuel, qui nous écoutent puis qui découvrent un peu Gabriel Attal, hein, qui est, bon, il est pas le montant de la politique en France. C'est quand même tout un parcours. Les gens l'ont vu hier. Bon premier de classe, jeune premier ministre, quelqu'un qui s'exprime bien.
Oui, quelqu'un aussi qui a l'audace d'un discours qu'on n'entend pas nécessairement. En tout cas, nous ici au Québec, on n'est pas... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont il a cadré tout son discours autour de la jeunesse. C'est sûr que 35 ans, c'est plus facile à faire que quand on a 50 ou 60. Mais la réalité, c'est qu'on est vraiment dans un climat politique où on parle de la classe moyenne, des travailleurs, etc. C'est comme oublier que on construit une société pour les jeunes générations. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il essaie de recadrer le discours autour de ça. On comprend d'ailleurs pourquoi Emmanuel Macron l'a nommé premier ministre pour essayer de relancer son gouvernement qui est vraiment confronté à une fracture politique, une fracture sociale très, très, très importante en France. C'est un politicien immensément habile qui a énormément de charisme. Là, je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus.
Il arrive en retard, par exemple, Emmanuel. Il est pas à l'heure. Il arrive en retard.
Il arrive en retard. Il arrive en retard. Ou est-ce que les discussions se prolongent? Tu sais, à un moment donné, t'as un tête-à-tête avec le premier ministre. Tu te dis ah ben là, on arrête de parler parce qu'on s'en va. C'est toujours un peu la nature de ces visites-là. Moi, je te dirais que quand des réunions se prolongent, je trouve généralement que c'est un bon signe par rapport à des rencontres qui tournent au quart de tour et qui durent 17 minutes quand elles sont prévues pour 17 minutes. Ça, généralement, ça veut dire qu'on a coché les éléments sur l'agenda plutôt qu'avoir des discussions substantielles.
Mais quand on parle justement de laïcité, bon, on a ce qu'on vit au Québec avec, par exemple, la contestation de la loi 21, le fédéral qui va s'en mêler, commission scolaire English Montreal. Mais en France, Emmanuel, là, c'est loin d'être réglé aussi, là. Puis il y a des situations, il y a des cas qui font les manchettes, là, des cas horribles.
Mais en France, c'est un enjeu, je veux dire, ça fait depuis les années 50 que ce principe-là est accueilli. Puis la nature de l'immigration en France est telle qu'il y a, il y a des assauts beaucoup plus concertés sur une laïcité qui, il faut le dire, est énormément plus dure que la laïcité qu'on a au Québec. En France, même le port du voile ou le port de signes religieux est interdit pour les élèves à l'école. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, dans le dernier épisode, là, qui a énormément défrayé les manchettes, un proviseur d'une école secondaire a exigé d'une étudiante qu'elle retire son voile dans la cour d'école. Oui. Et celle-ci a proféré des menaces de mort contre le proviseur en question, c'est parce qu'il y a quand même une mouvance islamiste qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus organisée et concertée, je te dirais, au sein de la société française qui mène un assaut très, très fort contre ce principe de laïcité. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement se voit obligé quand même de porter des gestes très, très durs, très forts, comme l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles. C'est quand même ahurissant, je pense, que dans une société occidentale, on soit dans un contexte où des étudiantes vont à l'école vêtues de l'abaya, qui est quand même la traditionnelle là, robe pour que les gens s'imaginent là, que les femmes portent en Arabie Saoudite. Donc, c'est une robe longue avec les manches longues jusqu'à terre, en plus du voile sur la tête jusqu'à terre. À un moment donné, je pense qu'il y a un signal très fort qui doit être envoyé dans une société. Puis, dans le contexte multiculturaliste ici canadien, c'est certain que ça heurte. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont le premier ministre Attal a répondu à ces critiques-là en disant, face à ceux qui font mine de ne pas comprendre, qui font croire que c'est une arme contre la religion, qui font croire que c'est une forme de discrimination, nous répondons qu'elle est une condition de l'égalité, de la liberté et de la fraternité.
Et la devise de la France.
Et donc, on l'assoit dans un socle de valeurs communes. Et ça, je pense que c'est un discours qui est important à rappeler et qui est autrement plus articulé que quand parfois on l'a entendu dans la bouche de certains de nos politiciens.
Oui, non, c'est vrai. Emmanuel, on se dirige lentement mais sûrement vers le budget fédéral. Le 16 avril.
Que restera-t-il à annoncer?
Oui, le déficit, l'ampleur du déficit.
Je vais te le dire, moi. Le déficit, puis comment on va payer pour ces dépenses-là? Ah, parce que oui. Jusqu'ici, dans son petit bal d'annonce électoraliste, le gouvernement a quand même dépensé pour 18 milliards de dollars. Et ça va être ça, tout le débat, je pense, qu'il va émerger du budget. C'est on s'attend grandement à ce que le gouvernement impose une forme d'impôts supplémentaires aux entreprises? Est-ce que c'est par le biais d'une taxe sur les surprofits ou dans cette voie-là? Et la question, c'est est-ce que le gouvernement va aller jusqu'à deux options, créer une nouvelle échelle d'impôts pour les super riches et est-ce qu'on va aller jusqu'à vouloir taxer les actifs des gens? Un peu comme la taxe sur la richesse là, qu'avait voulu proposer Québec solidaire. Je pense que ça va être les gros éléments du budget qui va être annoncé mardi prochain.
Puis Emmanuel aussi, puis je me rappelle aussi le débat aussi, en trame de fond lorsque Québec solidaire avait avancé cette idée-là. À partir de quelle barre t'es considéré comme riche, entre guillemets, avec la flambée des prix de l'immobilier?
Ouais, ça vaut ici au Québec, mais je pense que le débat à l'échelle canadienne, si le gouvernement a l'audace d'aller jusque-là, est-ce qu'il risque d'opérer une fuite des capitaux? Parce qu'on se rappellera que le président François Hollande avait essayé de le faire en France. Et la réalité, c'est que les gens, tu sais, l'argent, quand tu mets en place ce genre de mesures-là, les gros revenus viennent pas de la valeur de la maison de Madame Dubé à Longueuil ou à Saint-Basile-le-Grand qui vaut 1,5 million. Les revenus importants sont générés par les grandes fortunes et la réalité, c'est que ces grandes fortunes-là sont autrement plus mobiles que l'immobilier de monsieur, madame, tout le monde et il y a un risque réel d'occasionner une fuite de capitaux.
Mais là, Emmanuel, tu dis on en a à peu près jusqu'à maintenant pour 18 milliards d'annonces. Moi, ce que j'avais hâte de voir, c'est est-ce que ça fait bouger l'aiguille des sondages? Parce que c'est un peu ça la stratégie, là, c'est de déballer des annonces. Pour que c'est un réel impact. Le dernier abacus nous démontre que, ça a bougé. L'écart a
pas
augmenté.
Dans le bon sens.
Mais pas dans le bon sens.
Oui, les conservateurs sur l'abacus, c'est qu'ils sont à 44 % contre 24 % pour les libéraux. Donc, les conservateurs ont pris 3 points. Les libéraux, 1, ce qui est dans la marge d'erreur. Le NPD a reculé. Et, fait intéressant, parce que c'est toujours dangereux, les sondages à l'échelle nationale, parce que l'écart et l'avance des conservateurs est tel dans les prairies, là, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, que ça a tendance à déstabiliser là, t'sais, les valeurs. Si on regarde Colombie-Britannique, Ontario, Atlantique, qui sont les vrais champs de bataille, les conservateurs ont quand même 18 % d'avance là. Donc, ça a eu aucun impact. Et pourquoi? C'est un autre sondage qui nous donne peut-être tout cas des pistes de réponse, c'est qu'il y a 59 % des Canadiens qui trouvent que le fédéral dépense trop.
Ah, c'est, oui, c'est peut-être un peu relié à ça. Mais
quand tu mets ces deux sondages-là ensemble, ce qu'on comprend, c'est que, de un, il y a peut-être une question qui est légitime de savoir, Abacus a sondé entre le 3 et le 9 avril, la valse des milliards a commencé le 1er. Donc, est-ce que ces nouvelles-là ont eu le temps de percoler? Je pense que la question est légitime là, à se poser, mais... Est-ce que les gens écoutent encore Justin Trudeau? Et c'est ça la plus grande inquiétude, je pense, qui repose sur les épaules du gouvernement, de son gouvernement en ce moment. C'est est-ce que les gens l'écoutent encore ou est-ce que l'appétit pour du changement, le roll-ball est tel que peu importe ce qu'il dit, il n'y a rien à faire? Quand on met ça de concert avec la perception qu'il y a une très grosse proportion de la population qui trouve qu'à un moment donné, ça fera dépenser à droite puis à gauche, mais là, tu vois que le gouvernement est comme dans une mauvaise passe parce que il continue, si on veut, à se diriger vers la gauche. Et donc, il va gruger des votes au NPD pour garder la tête hors de l'eau.
Oui, mais ils sont mariés.
Mais la réalité, c'est que il perd des appuis chez toutes les autres tranches de l'électorat et est pas capable de faire des gains importants. Donc mauvaise nouvelle, je pense jusqu'ici pour le gouvernement Trudeau, dont finalement le témoignage tant attendu dans la commission sur les ingérences étrangères n'aura pas réussi à rassurer les Canadiens sur le sérieux qu'il met à gouverner le Canada.
Ben non, parce qu'il lit pas ses notes, puis il remet en doute aussi les informations du SCRS.
Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on peut avoir un débat sur le détail, est-ce qu'il devrait lire les notes ou pas, mais s'il y a une chose qui nuit à Justin Trudeau, c'est cette impression générale de superficialité, qui est un premier ministre désinvolte, qui est pas aux affaires, puis que ce qu'il aime, dans le fond, c'est parader puis faire des annonces. Puis quand ce qu'on retient de son témoignage, c'est justement que, ben si c'est important, dites-moi-le de vive voix, ben ça vient pas, si on veut, renchausser la perception qu'il est un premier ministre sérieux, minutieux, attaché aux détails. Ça, pour un gouvernement qui a tellement de difficultés à obtenir des résultats, ben c'est assez dangereux dans le contexte actuel.
Emmanuel Latraverse, merci beaucoup pour la discussion.
Très bien, au revoir.